un tango, une danse, un baiser, un sourire.
Par les temps qui courent...
Ça y est, plus 21h.
Marie Richeux.
Il y a des figures qui nous ouvrent des portes, justement. Parfois, ces figures, ces êtres ne le savent même pas. Quelque chose a lieu pour nous, sans qu'on le sache.
Avoir confiance dans son art, creuser sans relâche ses visions, c'est une offrande sans prix faite aux autres. Les voilà possiblement remis au point zéro de la naissance des images et du désir des poèmes. Un point où tout se donne et tout est retenu. Un point d'espérance, la joie du Nil. Dans votre premier long métrage, Bertrand Mandicot, l'île ouvre de nouvelles perspectives à chacun des garçons sauvages qui s'y risquent et prend la responsabilité de sa jouissance. Ces garçons, bourgeois et criminels, ont traversé la mer, vu leurs livres basculer par-dessus bord et senti chavirer leur vision d'eux-mêmes. L'ancien monde désormais prisonnier du ressac, ils entament une métamorphose. Ce long métrage arrive après des dizaines de courts et moyens métrages. Il sera en salle la semaine prochaine, le 28. Bonsoir et merci d'être là.
Bonsoir.
Bertrand Mandicot, on entre avec la musique de votre film Les Garçons Sauvages. Et il s'est passé quelque chose d'un petit peu particulier, pas très fréquent pour nous. On a vu votre film et puis ensuite on n'a pu plus le voir. C'est-à-dire qu'on ne l'avait pas à disposition, on ne pouvait pas le voir sur un ordinateur. Si bien que pour travailler, on travaille avec des souvenirs de vision, des images. Et elles ne sont plus captives. Et je me souviens que pendant la projection, je me disais quelle a été la première image pour lui ? Quelle a été la première vision ?
Alors ça, c'est peut-être difficile à dire parce que je l'ai forcément évacué de ma mémoire. Mais si j'essaye d'être honnête avec moi-même, je pense que c'est la séquence d'ouverture en réalité. J'ai pensé avant d'écrire Les Garçons Sauvages, j'ai pensé à une scène que je voulais mettre dans un film. C'était un film qui devait être contemporain, qui devait se dérouler sur l'île de la Réunion, et c'était un hermaphrodite qui tentait de se suicider dans un champ de canne à sucre. Il se saoulait, il mettait le feu au champ de canne à sucre, puis il s'allongeait, et là il y avait un coq noir qui venait sur sa poitrine et qui le griffait. Ça c'était la scène que j'avais rédigée en me disant voilà, je vais en faire un film. Et puis après j'ai mis ça de côté. Et puis quand j'ai repensé au garçon sauvage, enfin quand j'ai pensé au garçon sauvage, quand j'ai commencé à écrire le scénario, le principe du film, eh ben je suis allé chercher cette scène et je l'ai adaptée au scénario. Et donc c'est quasiment la scène d'ouverture. Alors il y a plus de corps.
Mais on n'est plus dans un champ de canne à sucre non plus.
Et on est sur une plage.
Et ouais. On est sur une plage. Tout va procéder, il me semble, par des manières de creuser des visions, d'aller très très loin dans ses propres visions. Je disais que j'avais l'impression, en voyant Les Garçons Sauvages, que vous aviez confiance dans ce que c'est qu'une image. Est-ce que j'ai raison ?
Bah je pense que l'image, en tout cas créer une image qui contient mes désirs, mes pulsions, c'est assez important. Donc j'essaye de tout synthétiser dans mes images, quoi. En tout cas que mes images contiennent plusieurs idées. Et donc à partir de là, j'avance image par image en construisant le monde visuel du film. Mais avant l'image, il y a le texte et le scénario, bien sûr. Mais l'image m'aide beaucoup, quoi. M'aide beaucoup à mettre en scène.
D'ailleurs, vous travaillez d'une manière qui presque fétichise l'image, parce que vous ne prenez pas de son direct, tout simplement pour la mémoire, et tout est en post-prod d'un point de vue sonore, et le son est extrêmement important. Pour autant, ça n'enlève rien à sa dimension. Si bien que pendant le moment du tournage, vous n'êtes concentré que là-dessus, que sur faire des images.
Oui, je suis vraiment concentré sur la fabrication des images, mais aussi sur la direction d'acteur, parce que c'est un acteur qui joue faux, même si on ne prend pas le son, ça marche pas, quoi. Donc j'écoute beaucoup, mais je suis vraiment énormément concentré sur l'image, d'autant plus que je cadre moi-même. Donc je tiens la caméra, souvent à l'épaule, même si ça se ressent pas. Et j'ai besoin de n'avoir personne d'autre entre moi et les acteurs que la caméra. Et j'ai l'impression même de jouer avec eux, de devenir un acteur à ce moment-là, de discuter avec eux en quelque sorte. Et donc en tenant la caméra, j'ai l'impression de tenir l'image et de la contenir, de la maîtriser.
Moi, je le perçois comme un écrivain majeur du XXe siècle qui a été un pont, certainement, entre le monde moderniste, pour dire les choses très simplement, mais enfin, le monde des expériences littéraires, celui de Joyce, celui de Pound, celui des surréalistes, celui des dadaïstes, et le monde qu'on qualifie, à tort ou à raison, de postmoderne. C'est vrai que c'est lui qui assurait, un de ceux, mais un des majeurs, qui assurait cette transition-là. Oui, c'est vraiment quelqu'un qui a tranché, déjà, il a tranché dans le ton, dans cette façon qu'il avait extrêmement incisive, violente, sans retenue, d'un érotisme féroce, parfois sordide, mais toujours inventif, ou alors avec une violence qui sans frein. C'est ça qui est aussi très étonnant dans la démarche littéraire de Brault. C'est quelqu'un qui n'a mis aucun frein dans aucun domaine, et aussi avec une représentation du monde qui était apocalyptique. Alors ça, c'est un aspect de la chose, mais le deuxième aspect, c'est que c'est toujours un écrivain qui, contrairement aux apparences, à son désordre inhérent, parce que c'est quelqu'un qui a vécu, je parle pour son travail, dans un désordre absolument hallucinant, a conduit une recherche littéraire d'une grande rigueur, extrêmement exigeante, extrêmement inventive, mais en abandonnant les thèmes de ses prédécesseurs. Alors en fait, il va faire marquer cette rupture avec ce monde-là, mais une rupture qui n'est pas une rupture de défi ou de relégation, mais simplement une rupture d'invention, là encore, de dire voilà, moi je fais autre chose, je passe dans un autre domaine, et qui apporte des ouvertures pour de nouvelles expériences.
J'étais ici 1959, et je n'avais rien de spécial à dire en ce temps, et maintenant non plus. Rien de historique.
Nous ne voulons plus entendre le baratin du père, le baratin de la famille, le baratin de la mère, le baratin du flic, le baratin du prêtre, le baratin de la patrie, le baratin du parti. Je dis que nous avons entendu suffisamment de merde à ce sujet.
Les Garçons Sauvages, on est en 1973, Bertrand Mandicot, on entend plusieurs éléments, dont la voix de William Burroughs lui-même. C'est le titre de votre film, c'est aussi le titre français du livre de Burroughs. Quel est votre lien avec ce texte-là, puisqu'on a parlé de l'image, et puis tout de suite vous avez dit oui, mais avant les images, il y a quelque chose qui s'écrit.
Alors, j'étais très touché de l'entendre en français parce que j'avais jamais entendu sa voix en français. C'est assez étonnant. Hein. Je savais pas qu'il parlait aussi bien français.
Je n'ai rien à dire, dit-il, ni hier ni aujourd'hui. Rien n'est historique.
Oui, il est vraiment dans une pulsion comme ça de son imaginaire, de son monde intérieur. C'est une sorte d'éternel adolescent pour moi en révolte, quoi. Et le point de départ, c'est la rencontre avec ses écrits, quoi. C'est la sortie de l'enfance. C'est vraiment des bouquins que l'on croise à l'adolescence, parce qu'il a une dimension un peu rockstar, hein, Burroughs. Il a fasciné les rockstars d'ailleurs. Et Et puis quand j'ai eu Burroughs entre les mains, bah ça m'a complètement fait partir, voyager. Je pouvais m'arrêter comme ça sur un paragraphe et rêver pendant une demi-heure après, et puis repartir dans la lecture de façon extrêmement fragmentée comme ça. Et Les Garçons Sauvages en particulier, c'est un roman qui m'a marqué, et en particulier, j'allais dire, deux séquences, parce que c'est quelqu'un qui pensait presque ces romans comme du cinéma, quoi. Sa modernité aussi, elle est là-dedans, c'est qu'il y a un rapport au cinéma assez fou. Et il y avait une séquence qu'il décrit où des garçons copulent avec des plantes hypersexuées. Et c'est resté ancré en moi, quoi. Et ça, c'était une des sources d'inspiration pour le récit que j'ai écrit moi-même. Et puis après, il y avait cette prophétie à la fin. Ces armées de garçons violents qui partaient à la conquête du monde, semaient le chaos. Ça aussi, ça m'a beaucoup beaucoup plu, cette idée-là, et je m'en suis aussi servi quand j'ai élaboré mon récit.
Parce que votre récit part d'une bande de garçons sauvages, en tout cas des garçons qui ont bien décidé dans un premier temps, non pas d'aller au bout de leur jouissance, mais d'aller au bout de leur violence, quoi, de leur envie de foutre le bazar. Et c'est des garçons que vous inscrivez du côté de la grande bourgeoisie et du côté d'une forme d'adolescence qui va être réprimée assez rapidement dans votre film. Il y a une forme de procès. C'est le procès de quoi, selon vous ?
C'est le procès de leur pulsion. On essaye de mettre un frein à leur pulsion. Et puis c'est des garçons de bonne famille qui évoluent sur l'île de la Réunion. Enfin bon, même s'il n'y a pas vraiment de réalisme hein, dans ce film-là, mais en gros, ce qui est dit par le juge joué par Christophe Beer, c'est que tant qu'ils s'en prenaient au petit personnel, etc., il n'y avait pas trop de problèmes, quoi. Mais à partir du moment où c'est une prof de français qui a subi leur acte barbare, là, ça devient problématique. Et donc ils sont voilà, on essaye de mettre un couvercle sur leurs pulsions.
De quelle manière ?
En les entraînant dans une croisière qui se veut répressive, mais qui va plutôt être une croisière initiatique, un révélateur en quelque sorte.
Alors vous mentionnez cette séquence chez Burroughs des garçons qui copulent avec des plantes très sexuées, assez. Indéniablement, on peut aussi l'entendre chez Tournier et sur l'île de Robinson et Vendredi les limbes du Pacifique, et aussi cette île qui devient à la fois matricielle, amante, extrêmement sexuée aussi. Est-ce que ça a participé de l'écriture de votre propre film ?
Oui, je voulais vraiment une île réactive, une île à la fois animal et végétal, quoi, une espèce d'entre-deux comme ça. Et j'étais marqué bien sûr par la lecture de Vendredi de Tournier, et surtout en particulier la séquence de copulation avec l'île. Et donc moi, j'ai imaginé une île comme ça qui serait comme un humain en kit, en quelque sorte. Donc il y a des plantes qui griffent, il y a des plantes qui lèchent, des plantes qui embrassent, etc., etc.
Il y a des plantes qui éjaculent.
Exactement, aussi. Donc tout est là, quoi. Tout est là, en kit.
Et c'est une île. Ça fait plusieurs fois que vous mentionnez le fait que vous avez tourné à La Réunion. Qu'est-ce que vous avez trouvé dans cet endroit ?
Bah, ce qui me plaît beaucoup dans l'île de la Réunion, c'est le côté tellurique, volcanique, quoi. Il y a vraiment cette dimension, cette tension qui est très forte. Et puis c'est une île aussi qui est où il n'y a quasiment pas de faune, quoi. C'est vraiment la flore qui domine, et il y a une variété de flore absolument extraordinaire. Et ça, j'aimais bien aussi cette idée d'île sans animaux. Mais par contre, voilà, moi j'ai un peu trafiquer la flore, hein. On a fait des collages de végétaux, on a créé des végétaux particuliers qui viennent agrémenter comme ça la flore naturelle de l'île.
Qui est déjà luxuriante.
Qui est déjà assez
Alors,
luxuriante.
Pour arriver sur l'île, il faut traverser la mer. On entendait l'idée d'un William Burroughs qui était le pont entre plusieurs mondes. Vous faites en sorte qu'il y ait quelque chose de très initiatique quand on traverse une mer, ou quand on traverse dans la mythologie des rivières ou de l'eau, on passe d'un monde à un autre. Pour vous, qu'est-ce que c'est que cette traversée-là dans laquelle s'engagent les garçons sauvages avec le fameux capitaine ?
Ben c'est d'abord un abandon de tout ce qui les rattache à leur île originelle. Hein. Tous les livres sont jetés à la mer. Et donc ils n'ont plus de lecture, ce sont quand même des garçons qui aiment lire, qui sont plutôt cultivés, etc. Et là ils sont à la merci du capitaine, quoi. Ils deviennent sa chose, ils deviennent des marionnettes en quelque sorte. Le capitaine, c'est un personnage assez ambigu parce que à la fois il est autoritaire et en même temps toute son autorité est bâtie sur des artifices, quoi. Il a des cordes pour attacher les garçons, il a un sabre pour les menacer, un chien noir pour les mordre, des fruits poilus provoquant des hallucinations pour comme ça asseoir son autorité. Mais quand on lui enlève tout ça, c'est un personnage assez faible. Et pour moi, il se rêve presque chef de bande, quoi. Enfin, le rapport qu'il a aux garçons, c'est pas tant une figure paternelle, mais c'est plus quelqu'un qui aimerait être le chef de la bande, quoi, mais qui s'y prend très maladroitement.
Et d'ailleurs, vous dites que son autorité est assez ambivalente, elle est basée sur des artifices, elle est aussi absolument, possiblement érotique, et elle est très érotisée très très rapidement sur ce bateau. C'est que vous dites ils sont la chose du capitaine, ils sont même assez littéralement la chienne, si je me souviens bien des mots qui sont utilisés, et d'un seul coup, le rapport à l'autorité peut devenir un jeu presque.
Oui, il y a un jeu sexuel, un jeu qui flirte avec le SM, mais sans tomber dedans, quoi, qui est plus un rapport de fascination. Alors c'est vrai qu'il utilise ces fruits qui provoquent des hallucinations, donc qui aident à la fascination, mais les garçons deviennent vite fascinés par cette figure. Il faut dire que c'est un capitaine qui a des attributs un peu particuliers, quoi. Une langue de bœuf en guise de sexe, un sein noir qui pointe sous son chemisier. Donc il a un attrait, il est très attractif, quoi, pour les garçons.
Dans ce bateau, qui est presque une île avant l'île, les forces se répartissent, aussi une forme de répartition des désirs, une cartographie des désirs, des imaginaires, des fantasmes, et peut-être l'éclosion de peut-être pour nous, en tout cas, de l'ambivalence des corps. C'est-à-dire que ce qu'on n'a pas dit, c'est que vos garçons, comme vous les appelez, ils sont interprétés par des jeunes filles à l'écran. Alors certes, aux cheveux courts, mais sans autre artifice pour aller vers la masculinité. Et sur ce bateau, on les voit de près et on voit vraiment de manière encore plus expressive l'ambiguïté de leur corps, leur entre-deux, justement, puisqu'on est sur la mer. Peut-être nous dire un mot de ce choix-là en termes de casting, Bertrand Mandicot.
Ben pour moi, c'était vraiment le point de départ. Enfin, le point de départ, il y a bien sûr le récit, la trame narrative, mais parallèlement à ça, ça faisait vraiment partie de l'ADN du projet, c'était que ces garçons soient interprétés par des actrices. Sans ça, j'aurais pas eu envie de faire le film, ça ne m'intéressait pas.
Pourquoi ?
Ben parce que dans le chemin parcouru par ces garçons dans l'histoire, c'est une notion de métamorphose, hein, donc je sais pas si je dois révéler la fin, mais enfin, c'était très important pour moi que le spectateur perde ses repères, quoi. Tout d'un coup, on a des garçons joués par des filles, on s'en aperçoit ou pas, ça crée un trouble. Il y a forcément quelque chose d'androgyne, parce que j'ai vraiment travaillé dans ce sens-là. J'ai pas essayé de leur mettre des fausses moustaches ou quoi que ce soit. J'ai vraiment travaillé sur les coupes de cheveux, sur les attitudes
et les voix.
Et les voix, bien sûr. Et après, il y a une notion de métamorphose, et là, il y a une perte des repères, quoi, pour le spectateur. Qu'est-ce qu'ils deviennent, qu'est-ce qu'ils sont, qui est qui, est-ce qu'ils retrouvent leur identité, etc. Et ça m'intéressait beaucoup, quoi. Ce qui m'intéressait beaucoup aussi, c'était de proposer à des actrices des rôles qu'on n'a pas l'habitude de leur proposer, parce que j'en ai un peu marre de voir des actrices jouer toujours les mêmes choses, quoi.
Quand vous dites que vous avez donc travaillé la masculinité avec elle, du point de vue de la posture, de la coupe des cheveux et des voix, bon, les voix ça arrive en post-prod, mais vous parliez de l'importance de la direction d'actrice et d'acteur, ça veut dire que vous avez postulé que c'était quoi la masculinité ? Parce qu'il faut, pouvoir dire des mots, il faut pouvoir dire quelque chose à ces actrices. Vous les avez dirigées comment ?
Alors d'abord, quand je les ai rencontrées les unes après les autres, parce qu'il y avait pas mal de candidates, je leur ai posé des questions sur leur part masculine et leur part féminine. Et puis moi, j'ai raconté mon film, et là, je les ai prises en photo, et en direct, j'ai discuté avec la directrice de casting, Chris Portier de Belair, et ensemble, on regardait ces photos, et je disais, bah, elle, je crois que je peux y croire.
Dans sa part masculine.
Oui, ouais, bah, en tout cas, je peux la filmer en faisant croire que c'est un garçon. elle non, elle oui, etc. Mais ça, c'est extrêmement relatif, hein. C'était vraiment du ressenti. Puis après, on a fait des essais plus poussés avec celles que j'avais retenues. Et là, en leur mettant une perruque à cheveux courts, pour commencer, et en les invitant dans des séquences qui n'apparaissent pas dans le film et que j'avais rédigées spécialement pour les essais, je filmais, je leur tournais autour, je cherchais le garçon en quelque sorte, et quand j'avais l'impression de l'avoir trouvé, quand tout d'un coup je devenais moi-même spectateur de ce que j'étais en train de filmer, je me disais ça y est, je sens le garçon, c'était gagné, quoi. Donc c'est comme ça que j'ai procédé dans un premier temps. J'ai essayé de trouver les actrices qui réussissaient à me convaincre le plus, à me troubler le plus. Et après, moi, je leur ai donné des exemples d'acteurs dans des films. Par exemple, pour Vima Laponce, c'était Devers dans Série Noire et Delon dans Plein Soleil. Voilà, c'était les deux. Le spectre était assez large. Pour Anaëlle, c'était Peter O'Toole dans Lord Jim et Bowie dans Furio, etc., etc.
Est-ce que ça suppose que chez ces exemples-là, vous faites l'hypothèse que la part féminine est très importante ?
Ah oui, je pense qu'il y a une part féminine chez ces acteurs et chez ces personnages, sinon c'est pas intéressant.
C'est-à-dire que ça ne va pas que dans un sens.
Oui, j'ai pas proposé John Wayne, par exemple. Vous voyez, là, la part féminine de John Wayne, quoique. En ce moment, je revois pas mal de Ford et je trouve qu'il a un déhanché hallucinant, quoi. Chacun a fait sa tambouille jusqu'à ce que ce soit crédible.
Ça veut dire que tout ça a fonctionné à partir d'attributs, à la manière dont vous dites, OK, je sens le garçon, je cherche le garçon. Ou les comédiennes disent, j'ai été chercher chez ces garçons. Donc, ça parle de manière très puissante de la construction sociale du genre. C'est-à-dire, c'est parce qu'on a certains attributs que d'un seul coup on est dans un camp, et parce qu'on n'en a pas que d'un seul coup on est dans l'autre, ou parce qu'on en a d'autres que d'un seul coup on est dans l'autre. Comme si vous mettiez ça à nu.
Peut-être, c'est pas comme ça que je l'ai vécu.
Alors, c'est comment ?
Moi, c'est plus, si vous voulez, ce qui m'intéresse, c'est de gommer les frontières, quoi. Donc, c'est d'être dans cette zone trouble, cet entre-deux, où on ne sait plus trop. Ça peut basculer de l'un côté ou de l'autre.
Oui, mais au départ, vous les filmez pas du tout dans un entre-deux. Vous les filmez quand même. Vous allez les chercher du côté des garçons.
Ah, je veux y
vous
croire.
Vous voulez qu'ils soient
je
là.
Je veux y croire. Mais le trouble m'intéresse. Il faut qu'il y ait toujours cette parfaite. Enfin, sinon j'aurais vraiment pris des actrices qui basculent plus fortement de l'autre côté. Ça m'intéressait d'être dans cet entre-deux, cette ambiguïté, quoi. C'est-à-dire que tout d'un coup, on puisse sentir la fille, le garçon, c'est plus trop, quoi. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur la notion de trouble est très importante, hein. Mais je devais pouvoir y croire. Par les temps qui courent, Marie Richeux.
C'est parce que je sais que dans l'art s'expriment des interrogations qui m'intéressent. Lorsque je suis adolescent à l'époque, finalement, mes premières notions d'art sont la peinture. Et ces peintures revêtent des questions qui sont celles de la beauté, du corps, de la question du féminin et du masculin, de la virginité, de l'impossible transformation, des questions très mythiques et en même temps des questions existentielles. Donc c'est vrai que pour moi, ce rapport à l'art et du corps est intimement lié. Je suis allé voir des œuvres d'art pour voir des corps. Le chemin et le choix de faire de l'art, en tout cas de faire ce choix de vie, hein, pas ce métier, mais ce choix de vie, était pour moi une seule et possible sortie par rapport à une question qui m'était très intime, c'est que faire avec un corps dont je ne trouvais aucun rapport, aucun contact. Thank you.
Bertrand Mandico, c'est la voix de Fia Ménard, artiste qui est passée d'un corps d'homme à un corps de femme. Et en termes d'identité, je ne me prononcerai pas, mais en tout cas qui dit que il ou elle a choisi l'art, de vivre l'art, parce que ça pouvait lui permettre de jeter dans la vie des questions du rapport au corps qui étaient irrésolues. Alors on l'entendait, vous le disiez à l'instant, ce qui vous intéresse avant toute chose, c'est le trouble. Est-ce que vous vous diriez que le choix de l'art, si ça s'est présenté de cette manière-là pour vous, avait de toute façon à voir avec les questions du corps ?
Oui, mais le corps dans le décor. C'est-à-dire que je n'arrive pas à travailler le corps sans décor. J'ai besoin d'inscrire le corps dans un environnement et que cet environnement interagisse avec le corps pour le révéler en quelque sorte, pour le questionner. Et c'est comme ça, j'allais dire, que j'arrive à créer, quoi.
Quand on parle du choix de l'art comme une sorte de choix de vie, c'est comme ça que ça s'est présenté pour vous aussi. J'ai précisé que, bien sûr, c'est votre premier long métrage, mais ça arrive après vraiment un très vaste travail cinématographique. C'est une manière de vivre que de faire des films.
Oui, j'ai pas le choix. Il faut que je tourne, il faut que j'écrive, pour pouvoir tourner déjà, parce que j'ai besoin de passer par l'écriture. Et c'est plus fort que moi, quoi. J'ai besoin de créer. C'est comme une montée de sève, quoi. Ça doit sortir. Il doit y avoir des fruits qui arrivent comme ça au bout des branches, qui tombent par terre, qui pourrissent peut-être, mais enfin, il doit se passer quelque chose, donc c'est plus fort que moi.
Et vous êtes arrivé dans quel état au moment de passer à un long métrage, si tant est que ce soit un passage important ou vécu de manière importante pour vous ?
Ben, c'est un passage que j'avais attendu pendant un moment, parce que j'avais travaillé sur d'autres projets de long métrage qui n'avaient pas vu le jour. J'avais fait des rencontres de production pas très heureuses. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, de toute façon, il n'y a peut-être pas de format roi. L'essentiel, c'est de faire des films et d'essayer de faire des bons films. Et peut-être que j'ai le karma du court et du moyen métrage. Et voilà, ça sera comme ça. Et puis, c'est justement quand j'ai peut-être un peu baissé la garde, où j'ai commencé à moins me crisper sur cette idée, que ça s'est décoincé. Et donc, j'ai abordé ça comme j'aborde les autres films, en sachant qu'il fallait que j'aie un peu plus d'endurance pour ce film-là. Et puis, l'écriture était différente, quoi. C'est-à-dire que quand j'écris pour des formats courts ou moyens, je me permets des expérimentations un peu plus radicales avec les récits, parce que les spectateurs peuvent encaisser ces choses-là. Sur un format plus long, j'assois mon récit sur une trame plus classique, et après, je viens fleurir cet axe un peu raide, comme ça.
Quand vous écrivez, donc, vous concevez cette île comme un endroit de métamorphose. Quelles y sont les lois ? Elle est régie par quoi, cette île-là, pour vous, dans le film ?
Par l'envie de s'adapter. Enfin, en tout cas, c'est ceux qui doutent restent dans un entre-deux. Ceux qui ne doutent pas avancent, quoi, vont de l'avant, se métamorphosent. Mais peut-être que cette métamorphose ne va pas s'arrêter à l'endroit où j'arrête le film. C'est peut-être une métamorphose qui va continuer son chemin. Peut-être que ça va être une métamorphose cyclique. C'est difficile pour moi parce que je veux pas révéler la chute du film, donc je dois parler comme ça de façon énigmatique. Mais en tout cas, c'est une île qui révèle l'élan intérieur, quoi.
D'ailleurs, je parlais dans l'introduction de la responsabilité de sa propre jouissance, parce que je crois que dans le procès du départ, dans la manière dont, en effet, on met une sorte de couvercle sur la pulsion de ces jeunes garçons sauvages, la question de la responsabilité est posée. Alors, plus à l'endroit de l'innocence ou de la culpabilité, cette responsabilité-là quasiment juridique. Et quand on arrive sur l'île, c'est autre chose, en effet. C'est quelque chose de l'ordre de l'élan. Ça vous dit quoi, vous, cette idée-là de la responsabilité de sa jouissance ?
La responsabilité, ça...
Comme s'ils étaient obligés, ces garçons, de se prendre en main.
En tout cas, on leur offre la possibilité de laisser libre cours à leur élan, quoi. Et à partir de là, il va devenir ce qui va devenir, hein, en quelque sorte. Une des références que j'avais aussi, j'en ai pas beaucoup parlé jusqu'ici, c'est Pinocchio. Il y a une île chez Pinocchio, enfin je pense que c'est une île, hein, où les garçons, les vauriens se retrouvent comme ça, où tout est permis. Et ils peuvent casser des vitres, manger des bonbons, fumer des cigares, boire, etc. Et à l'issue de ces excès, il y a une métamorphose. Alors là, c'est une métamorphose punitive, ils deviennent des ânes. Et j'avais cette idée de l'île comme ça où tout est permis et qui entraîne une métamorphose. À part que moi je n'aime pas la notion de punition, c'est quelque chose que je déteste, quoi, cette idée de punir. Je préfère l'idée de révéler que de punir. Donc en gros c'était le même processus que pour Pinocchio, une île où les choses sont permises. Et en tout cas, on peut jouir. Et après, il y a une métamorphose, mais c'est une métamorphose qui révèle et qui questionne.
Il ne faut compter sur personne. Méfie-toi des pelles noires.
Le capitaine nous a fait marcher tout le temps.
Ça ne m'étonne pas de lui. Il manque d'envergure et d'autorité naturelle. Vous croyez en Dieu ?
Non.
Vous êtes vraiment sympathique. Ça sent la tempête.
Moi, je trouve que ça sent l'huître.
Nous sommes sur une huître. Démesurée. Et je suis sa perle.
Chaque film est une excursion, une aventure. Chaque artiste est artisan, chaque artiste est alchimiste. Mais alchimiste dans ce sens qu'on fait la mixture, on mélange de différentes choses, on mixe, n'est-ce pas, et sort quelque chose d'inattendu. On fait storyboard, on sait où on va, mais à peu près, c'est-à-dire le résultat final est toujours inattendu. Et justement, ce qui est intéressant, que et ce qui nous pousse de travailler quelquefois jour et nuit sans arrêt pendant cette curiosité insatisfaite de voir le résultat final. Parce que l'alchimiste était aussi, je pense, de même façon fasciné, inquiet et curieux de voir le résultat, si ça explose ou non. Et ça, c'est vraiment la création.
Une explosion et une excursion, dit Valériane Borowczak. Alors, Bertrand Mandico, c'est un nom qui revient très souvent. C'est aussi un nom auquel vous avez consacré, d'une certaine manière, un film. Juste avant, on entendait un extrait de votre film « Les garçons sauvages », une excursion. Alors, on peut vraiment dire que quelque chose des propos de ce réalisateur a un fort écho. Comment le voyez-vous, vous, la création d'un film ?
Pour créer un film, j'ai besoin de me rassurer. Mais je vais peut-être paraphraser Borowczak, hein. C'est-à-dire faire des storyboards, essayer de
tout en dessinant, par exemple,
en dessinant,
en collant des images,
en faisant des collages, des recherches. Enfin, une fois que le scénario est établi, bien sûr, hein, c'est la première chose, c'est l'écrit. Et après, vraiment, j'ai besoin de travailler, de cerner le film déjà pour communiquer aussi avec l'équipe qui m'entoure, pour qu'ils comprennent là où je veux aller, pour être assez précis aussi parce qu'on n'a pas non plus des milliers d'essais. Et donc comme ça, je cerne l'univers et ces éléments graphiques que je donne à mes chefs de poste, ça permet d'aller tous dans le même sens. Mais après, et on répète bien sûr avec les actrices, etc. Mais après, ce qui m'intéresse, c'est oublier tout ça, quoi. Je sais que c'est dans un coin, pas loin de moi. C'est comme une sorte d'aide-mémoire, et je peux à ce moment-là laisser libre cours à mon imaginaire. Et puis me laisser porter par le moment, être plus dans l'instant et l'instinct, et attendre, essayer d'atteindre ce moment de grâce. Alors c'est vrai que le tournage sur support pellicule m'aide à me concentrer, parce que on fait peu de prises, parfois il nous arrive même d'en faire qu'une seule, ça c'est chose que je peux annoncer sur le plateau.
Vous dites là, on n'en fera qu'une.
Oui, sur cette séquence, une seule prise. J'annonce ça de façon très solennelle, comme ça, Et ça permet à tout le monde de se concentrer sur l'instant. Bien sûr, j'ai toujours une deuxième carte, je peux toujours décider d'en faire une deuxième, mais je m'y suis tenu jusqu'ici. Et là, toute l'équipe est concernée, si vous voulez. On est tous dans un espèce d'état de transe, et puis c'est plus de l'ordre de la performance à ce moment-là. Et c'est ça que je recherche, quoi, cet état-là.
Vous dites que vous agencez de manière très très précise le matériau de départ pour pouvoir communiquer avec l'équipe, que ce soit les actrices ou les chefs de poste ou toute l'équipe technique. Ça veut dire que vous avez parlé de ces visions, de ces désirs-là, en quels mots? Vous leur avez raconté quoi?
J'utilise tout ce que je peux utiliser, quoi. C'est-à-dire que à la fois j'explique avec mes mots, tant bien que mal, je raconte l'histoire, j'essaye de cerner ce que je veux avoir. Après, je fais des croquis, j'ai des photos, des collages, je peux montrer des extraits de films, enfin voilà, tout ce que je peux fournir, je le fournis, quitte à noyer et asphyxier les gens avec qui je travaille. Mais j'ai vraiment besoin de sentir qu'ils ont tout compris, quoi.
Mais ça ne dit pas la manière dont vous avez parlé de, je ne sais pas, les choses essentielles de votre film. Vous leur avez dit quoi à ces actrices? Qui m'importe, c'est quoi?
Ah, aux actrices. Ce qui m'importait, c'est que ce soit une meute, quoi, une bande, une vraie bande, avec cette espèce de dynamique qu'il peut y avoir dans les bandes. Et c'est ce qui s'est quasiment passé, c'est-à-dire que le groupe des actrices est devenu dans la vie une bande, un petit peu comme le film, quoi. C'est-à-dire que ça a dépassé la réalité, a dépassé la fiction. Enfin, par rapport à la dynamique de bande. Hein. J'aimais bien que ça se produise, quoi, qu'il y ait vraiment cette meute apparaisse.
Et vous y voyez quoi dans la meute? Parce que il peut y avoir à la fois quelque chose d'extrêmement solidaire, une solidarité animale extrêmement forte, mais il peut y avoir aussi l'endroit de la violence, la possibilité de l'attaque.
Ben oui, c'est terrible. C'est la je trouve que la bande peut tirer vraiment vers le bas, quoi. En tout cas, c'est le prétexte à laisser libre cours à ses pulsions les plus basses. Ça peut être un élan formidable aussi, mais ça peut être terrible, quoi, la bande. Ouais. Et là, la bande, c'est la fautive, hein, puisque les garçons disent c'est pas moi, c'est Trevor. Donc Trevor, c'est le nom qu'ils donnent
à
cette espèce d'entité comme ça qui représente la bande, et il se cache derrière l'entité, quoi.
Et d'ailleurs, quand la métamorphose commence, quand cette espèce de transition sur l'île advient, c'est plutôt par la voie d'individus, c'est plutôt par des échappées belles, en fait, certains qui décident de suivre en effet l'élan intérieur, comme si c'était là que vous décidiez de placer une émancipation possible.
Oui, c'est-à-dire que tout d'un coup tout est éclaté, tout se fractionne, quoi. Et là où l'histoire était chorale, il y a des solos qui commencent à se jouer pour chacun, et chacun va avoir sa partition, et puis finalement ils vont se retrouver, se recentrer autour d'un nouveau personnage qui est le personnage de Séverine, un docteur qui est à l'origine de la découverte de l'île et de ses vertus et de ses métamorphoses, et qui est un personnage qui a dépassé l'état féminin, quoi. C'est une sorte de, elle a le savoir, c'est une sorte de sorcière en quelque sorte. Il y a un petit côté Circé chez elle, quoi.
On disait tout à l'heure que le capitaine, cette espèce de grande figure masculine du départ, était une figure très ambivalente qui se rêvait en chef de bande pour Séverine, qui est donc pas seulement une figure féminine, qui est au-delà. Elle serait quoi par rapport à ces garçons qui débarquent?
Elle remplace Trevor. C'est-à-dire que tout d'un coup, elle devient l'incarnation de cette entité qui fédère la bande.
Animal, on est mal, on a le dos couvert d'écailles, on sent la paille dans la faille, et quand on ouvre la porte, une armée de cloportes vous repousse en criant, ici pas de serpent. Animal, on est mal. Animal, on est mal. Animal, on est mal, on a de cornes. crâne placé sur le devant du nez. On s'abaisse, on s'affaisse, on a la queue qui frise, on a la peau épaisse, on a la peau grise. Et quand on veut sortir avec une demoiselle, on l'invite à dîner quand elle vous voit, que dit-elle? Il ne vous manque qu'une bosse, va des rétro-rhinocéros. La voilà qui se retrouve le couple à la graffe. Elle appelle au secours. On veut lui mettre un pantalon, mais il est trop court. Animal, on est mal. On pond ses œufs dans le sable. Et quand on passe à table, les chevaux vapeurs. On prie peur de se retrouver loin de leur étable.
Ton nom?
Genet.
Plantagenet?
Genet, je vous dis.
Et si je veux dire Plantagenet, moi, ça te dérange? Prénom?
Jean.
Âge?
30.
Profession?
Sans profession.
Je fus élevé dans le Morvan, par des paysans. Quand je rencontre dans la lande, et singulièrement au crépuscule, au retour de ma visite des ruines de Tiffauges, où vécut Gilles de Rais, des fleurs de genêt, j'éprouve à leur égard une sympathie profonde. Je les considère gravement, avec tendresse. Mon trouble semble commandé par toute la nature. Je suis seul au monde, et je ne suis pas sûr de n'être pas le roi, peut-être la fée de ces fleurs. Elles me rendent au passage un hommage, s'inclinent sans s'incliner, mais me reconnaissent. Elles savent que je suis leur représentant vivant, mobile, agile, vainqueur du vent. Par cette plante épineuse des Cévennes, c'est aux aventures criminelles de Vacher que je participe. Enfin par elles, dont je porte le nom. Le monde végétal m'est familier. Je peux sans pitié considérer toutes les fleurs, elles sont de ma famille. Si par elles, je rejoins aux domaines inférieurs, mais c'est aux fougères arborescentes et à leurs marécages, aux algues, que je voudrais descendre. Je m'éloigne encore des hommes.
Bertrand Mandicon, on voulait évoquer avec vous Jean Genet et un chant d'amour, peut-être parce que ça fait partie des choses que, dont vous parlez de temps en temps. Pourquoi est-ce que c'est un point lumineux, scintillant, comme le crâne des diamants?
Ben parce que Genet, il est surtout connu comme comme écrivain, mais pour moi c'est un des plus grands cinéastes et il a réalisé juste un court-métrage, mais ça suffit à être le plus grand des cinéastes, un des plus grands en tout cas. Et donc c'est un chant d'amour qui est un film qui a été interdit pendant longtemps, hein, qui était difficile à voir, qui se déroule dans des prisons Je sais que Cocteau l'a parrainé, hein, le tournage du film. Enfin, il y avait plein de gens qui l'ont aidé à le faire. Et c'est un film qui est une des histoires d'amour entre prisonniers. C'est extrêmement délicat. Et puis il y a cette image d'une paille qui passe dans un petit trou dans le mur et d'une éjaculation qui est représentée par de la fumée de cigarette qui passe dans cette paille et qui est avalée par le voisin de cellule. Il y a des bouquets de fleurs qui sont lancés d'une fenêtre à l'autre. Et puis il y a un maton qui mate, quoi, un maton jaloux. C'est un film très très simple dans le dispositif, mais d'une beauté renversante, quoi.
Ça fait partie, je le disais, des points scintillants. Et puis de toute façon, vous parliez de la manière dont vous amassez comme ça beaucoup de contenu avant de vous lancer dans un film, comme si vous le rêviez. Tout à l'heure, en entendant la voix de Borochek, vous avez dit j'ai rêvé ces films ou son film. Quel film?
Bah, Borovchek, je l'ai connu d'abord par ses films d'animation, ses courts-métrages, parce que j'ai fait une école de cinéma d'animation, donc c'est par cette porte-là que je l'ai connu. Et j'avais moi-même envie de faire des films en prise de vue réelle, comme on dit, et j'ai su que Borovchek en avait fait pas mal, qui était difficile à voir à l'époque, et notamment Goto Île d'Amour, son premier long-métrage de fiction. Je rêvais sur le titre, quoi, avant de l'avoir vu. J'imaginais un petit peu Les Garçons Sauvages, quoi. J'imaginais une île comme ça, sauvage, qui révèle la sexualité des corps dans la nature. Bref, j'imaginais tout ça, et quand j'ai vu le film, je me suis aperçu que c'était pas du tout ça. C'était plutôt un monde totalitaire, une idée d'enfermement, des boîtes, comme toujours chez Borovchek. Enfin, quelque chose de très bien, hein, mais qui était très différent de ce que j'avais rêvé. Et donc, oui, peut-être que ça a été une des graines des Garçons Sauvages rêvés sur le titre Goto Île d'Amour.
Quand vous avez vu votre propre film, après y avoir rêvé vous aussi, est-ce qu'il était différent? Est-ce que l'endroit où vous avez finalement amené les Garçons Sauvages était vraiment très éloigné de ce que vous avez pendant plusieurs mois ou quelques années peut-être rêvé de ce film-là?
Eh bien, c'est-à-dire qu'on essaye de faire en sorte que le film ressemble à ce qu'on a en tête. Après, pendant le tournage, on essaye de s'abandonner. Et puis pendant le montage, on essaye de reprendre les rênes pour le ramener comme ça à l'idée initiale. Mais au bout d'un moment, voilà, il y a une lutte entre ce qui a été fait et ce qu'on avait en tête. Et il faut apprendre à aimer le film qu'on a tourné, apprendre à le comprendre aussi, et aller dans son sens, quoi. Essayer de le. On peut pas lutter, quoi. Il faut pas aller contre sa nature. Donc j'ai dû apprendre à l'aimer, à l'apprécier, à le comprendre, à l'embellir aussi. Et j'étais jusqu'à ce que je devienne étranger à mon propre travail, quoi. Et c'est à ce moment-là que je peux lui lâcher la main. Je peux le regarder sans m'endormir devant, en étant pris, en me demandant qu'est-ce que c'est que ce truc. En même temps, c'est familier, mais il ne m'appartient plus, comme une sorte de mue comme ça. Et donc là, je le lâche à ce moment-là.
Qu'est-ce que vous en avez compris des Garçons Sauvages?
J'en ai compris que on n'a jamais fini avec l'adolescence, avec sa propre adolescence, je crois. On essaye toujours de courir après, ou du moins on croit qu'on est toujours des adolescents. Et c'est curieux, l'adolescence. J'ai l'impression que quand on est adolescent, on veut se débarrasser de cette adolescence. Une fois qu'on est passé ailleurs, là, on a vraiment l'impression d'être adolescent, puis on n'a pas envie de lâcher ce moment de la vie. Et on court toujours après ça, quoi. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que la société fait croire à tout le monde qu'ils sont d'éternels adolescents, quoi.
C'est marrant parce qu'en vous écoutant, je me dis, c'est peut-être un propos très masculin, ça, de courir après son adolescence. Vous avez entendu beaucoup de filles dire qu'elles couraient après leur adolescence?
Je sais pas, je n'ai jamais vraiment discuté avec, à part là, maintenant, avec vous. Je sais pas si c'est très masculin, je pense.
Quand vous dites on court beaucoup après son adolescence, alors vous parlez de qui?
Je dis on, mais pour pas dire je. je cours. Non, j'ai l'impression que la jeunesse est quand même assez importante dans la société. Regardez, ne serait-ce que les stylistes qui essayent de faire porter des fringues d'adolescents à des personnes qui ont vraiment dépassé l'adolescence depuis très longtemps. Y a beaucoup de gens de 50, de 60 ans qui ont des comportements encore adolescents dans la consommation. Ils achètent des produits qui sont faits pour les adolescents. Donc quand je dis on, c'est ça, hein. C'est la société de consommation.
Et quand vous dites je, c'est quoi alors? Qu'est-ce qui est intéressant pour vous dans l'adolescence? C'est justement le moment où il y a la possibilité, où il y a l'indétermination, qu'elle soit sexuelle ou autre d'ailleurs.
Bah c'est cette fébrilité, cette fragilité, cette indécision. C'est ça qui m'intéresse, que j'essaie de retrouver cet état intérieur, quoi. Cet état cette capacité à s'émerveiller toujours, et à être en colère aussi.
Hubert leur raconta plus tard son aventure. Le sein du capitaine qui pointait sous sa chemise. Et surtout, sa rencontre avec Séverine.
Encore un extrait de votre film Bertrand Mandicot, Les garçons sauvages. C'est le récit, vous disiez tout à l'heure chez Jean Genet qu'il y avait quelque chose de celui qui regarde, en l'occurrence le gardien de prison. Là, il y a quelque chose de celui qui raconte, celui qui a regardé, quoi. C'est tout le rôle de la voix off. C'est presque une voix qui voit, une voix voyeur. Et qu'est-ce qu'elle a vu? Ou qu'est-ce qu'il a vu, ce garçon sauvage, la naissance d'un saint? Vous disiez tout à l'heure que votre, peut-être l'essence de votre intérêt allait à l'endroit de la transition de l'adolescence, c'est ça? C'est quand les choses naissent?
Oui, c'était ça. Tout à l'heure, on a eu cette conversation sur l'adolescence, et c'est vrai que pour moi, c'est pas l'adolescence affirmée, mais c'est la frontière, quoi, la fin de l'enfance, le début de l'adolescence, cette zone comme ça où ça pousse, où ça gratte, où ça coule. Voilà, c'est ce moment-là qui m'intéresse, et c'est vrai que c'est l'état de métamorphose, quoi. Là, dans le récit, c'est tout d'un coup le garçon qui est le plus fasciné par le capitaine, qui décide de le suivre dans la forêt, voir ce qu'il va faire, le découvre dans des marais, comme ça, allongé, de façon extrêmement lascive, en train de fumer, et sa chemise mouillée révèle un sein noir à la gauche de sa poitrine qui pointe, et ça le trouble énormément, quoi, bien sûr.
Quand on vous entend presque parler de cette vision-là, on pourrait penser à un poème de Rimbaud, à un soldat allongé dans l'herbe et deux trous rouges sur sa poitrine, comme si chacune des visions dont vous disiez tout à l'heure que voilà, presque vous pouviez les dessiner, elles étaient aussi possiblement des poèmes.
Alors ça, j'en serais ravi, hein, mais je...
Ça n'irrigue pas du tout l'écriture de votre film, la poésie. C'est une vue de l'esprit, de mon esprit.
Je pense que oui, j'aime qu'il y ait une. En tout cas, j'aime jouer avec les mots dans la voix off.
Je parle pas forcément de la poésie du langage, hein, je parle de l'épiphanie de la poésie en tant que. Justement, qu'elle est une sorte de potentiel d'image.
En tout cas, c'est des états de grâce, quoi, que j'essaye de trouver. Et effectivement, ça renvoie peut-être à des images poétiques, quoi. Mais j'appellerais ça plutôt des états de grâce. Poétique, c'est un mot qui me fait peur.
Hein. Ah oui, pourquoi?
Ben parce que je mets ça peut-être sur un piédestal. Alors j'ai l'impression que dès qu'on dit qu'on
c'est
fait de
ça,
la poésie,
le problème.
Ben ouais, c'est ça. Hein, ça, c'est. Vous vous rendez compte, quelqu'un qui arrive et qui dit comme ça, je suis un poète ou je fais des films poétiques, c'est un peu, c'est aux autres de dire si on est poétique ou pas. C'est pas à nous de le dire.
Ça, c'est souvent une façon de très très bien se débarrasser de la question. Je vous félicite, on va parler de la voix off. Alors peut-être pour terminer, puisque Bertrand Mandicot, on a beaucoup parlé des images, de la puissance du jeu, des comédiennes et des comédiens. Et puis il y a ce récit, ce fil-là. Qu'est-ce qui a présidé à ce choix formel, sonore?
Pour moi, la voix off participe de la musicalité de la bande son. Donc, comme vous le disiez tout à l'heure, je ne prends pas de son. Enfin, j'ai un son témoin extrêmement désagréable à écouter, dont je m'en débarrasse le plus
vite
possible.
Les vagues et le vent.
Les vagues, le vent, les groupes électrogènes, la machine à fumer, enfin tout. Et puis les gens qui parlent parce qu'ils savent pertinemment que je vais refaire tout derrière. Et moi-même, je parle beaucoup. Donc, ça fait que cette bande son est inaudible et c'est un témoin. Et ensuite, je convoque les actrices qui me permettent de les revoir déjà et qui vont se post-synchroniser. Alors en général, elles retombent sur leurs pattes, quoi. Mais moi, j'essaye d'avoir une direction d'acteur parfois qui est presque en contradiction avec leur corps.
Pour une dissonance.
Pour avoir des effets qui sont peut-être perçus de façon inconsciente chez le spectateur, mais vous voyez un acteur qui murmure alors que son corps est en mouvement et que ce serait impossible dans la réalité de le faire murmurer comme ça avec une telle douceur, ça m'intéresse beaucoup, quoi. Je dissocie le corps et la voix, mais pour avoir un état qui me semble être juste par rapport à ce que je veux raconter, quoi. Et puis après, je crée avec les personnes qui travaillent avec moi, avec Simon Apostolou, avec Laure Saint-Marc, ma monteuse son, on crée la bande son, des ambiances, puis après il y a le bruitage qui arrive, et puis la dernière strate c'est la musique. Et vous parliez de la voix off qui est rédigée dès le départ, bien sûr. Elle vient ficeler tout ça. Elle vient vraiment entortiller, tenir cette bande son. Et c'est quelque chose qui est très fragile, la voix off, parce qu'il y a bien sûr ce que j'ai écrit au départ, mais après j'essaye de doser ça, de trouver l'équilibre juste. J'en enlève, j'en réécris un petit peu. C'est vraiment par touche, quoi. C'est tout peut se casser la figure avec la voix off. Et là, l'idée que j'avais, qui n'était pas une idée initiale, c'est qu'il y ait une double voix off, une voix off en canon, qui est à la fois la voix de Lola Creton, qui n'apparaît pas dans le film, donc qui est une voix très très féminine, qui est la part féminine en gros des garçons, qui est une narratrice qui plus en retrait, qui nous raconte, et puis la voix de Tanguy, donc qui est la voix d'un des garçons, et qui lui nous raconte son point de vue. Et cette voix off, je joue avec, à la fois elle est tantôt, elle est dans la description, elle nous raconte ce qu'on n'a pas vu, et parfois elle vient contredire l'action. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, quoi, de contredire ce qu'on voit, d'amener une autre lecture, ce qui peut procurer des moments soit d'absurdité, soit d'humour, et puis des instants plus poétiques, j'espère.
Merci beaucoup, Bertrand Mandico. Les Garçons Sauvages, c'est en salle à partir du 28 février prochain.
Merci.
Par les temps qui courent, quelle porte ne pas ouvrir ?
La trappe.
Par les temps qui courent, est-ce qu'il faut regarder la mer ou s'y jeter ?
Surfer.
Par les temps qui courent, une odeur à avoir dans la poche ?
L'odeur d'une fleur écrasée.
Par les temps qui courent, on se retrouve demain à 21h sur France Culture ou quand vous voulez sur franceculture.fr ou en podcast, vous pouvez vous abonner. C'était ce soir Philippe Mercher au son et Lise-Marie Barré à la réalisation. Jeanne Aléos, Corinne Ama, Romain de Becdelièvre m'aident à penser cette émission et je réponds @MarieRicheux sur Twitter. Und ich tu einfach weiter, wenn er auch.